Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 97, Dav Tzadik Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Hashfod veha'askala, la broche et la grille qui ont servi à griller la viande d'un sacrifice, mag'ilan bechamin, il les ébouillante dans de l'eau bouillante. Et cela pour faire sortir le goût de viande que ces ustensiles ont absorbé. Il est vrai que, comme il est expliqué dans Masechet Avodah Zarah Daf Ayin Vav, que ces ustensiles qui sont utilisés directement dans le feu sans liquide, il faut les chauffer à blanc pour considérer que tout ce qu'ils ont absorbé est sorti. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah Daf Ayin Vav pose cette question et donne plusieurs réponses. Entre autres, elle explique que puisque ces ustensiles qui ont absorbé le goût de viande du sacrifice, alors qu'il était permis à la consommation, en effet, cette viande n'est interdite qu'après le moment prévu par la Torah pour le faire. C'est pourquoi on peut se contenter de les ébouillanter. Mais si ces ustensiles ont absorbé un aliment interdit, il faudra le faire chauffer à blanc pour détruire ce qu'ils ont absorbé. Nous avons vu dans la Mishnah donc cette discussion entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Selon Rabbi Tarfon, il est permis de faire cuire de la viande des sacrifices tout au long de la fête, sans avoir à le frotter et le laver entre chaque sacrifice ou lorsque le moment de la consommation du premier sacrifice est écoulé. Tandis que selon les Chachamim, il faudra frotter et laver la casserole dès que s'écoule le moment prévu pour la consommation du premier sacrifice qui a été cuit dans cette casserole. Alors la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Tarfon, quelle est la raison de Rabbi Tarfon? Pourquoi selon lui, il n'est pas nécessaire de frotter et de laver les casseroles tout au long de la fête? Ragma répond à Makra, car le Passouk dit dans Dvarim Tetzaïn concernant la fête de Pessah. Donc le Passouk dit qu'il faut monter à la ville d'Yerushalayim pour offrir les sacrifices et entre autres le Korban Pessah. Puis le Passouk dit, et tu cuiras et tu mangeras la viande des sacrifices à l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Ou Fanita Baboker Behalachta Lehoalecha, et tu retourneras le matin et tu iras à ta tente. La Gemara comprend ici, comme l'explique le Tosfot, que le Passouk veut dire ici qu'il faut passer les 7 jours de fête dans la ville de Yerushalayim et le lendemain des dernières fêtes, tu pourras rentrer chez toi. Et finalement, le Passouk s'exprime en disant « et tu retourneras le matin, donc le lendemain ». Nous apprenons de là « Hakatuv asa'o lekulan boker echad » Le Passouk a considéré toute la fête comme un matin, donc une journée, et le lendemain de la fête, c'est-à-dire le lendemain des 7 jours. Par conséquent, il est vrai qu'il faut laver et frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson des sacrifices le lendemain de sa consommation. Cependant, pendant la fête, le Passouk considère que le lendemain du jour de la consommation, c'est en fait le lendemain des dernières fêtes. En matkifla, Rav Ardevoui bar Ami, Rav Ardevoui, fils de Rav Ami, a objecté là-dessus, Vechien Pigoul bar Egel, n'existe-t-il pas l'invalidité du pigoul pendant la fête, c'est-à-dire si une personne sacrifie un sacrifice pendant la fête avec l'intention qu'il soit consommé ou offert le lendemain, donc après le moment prévu par la Torah pour le faire, est-ce que le sacrifice n'est pas invalidé car le sacrifice est valable jusqu'à la fin de la fête, donc la limite fixée par la Torah n'existe-t-elle pas pour la fête? Ve'en notar baregel, n'existe-t-il pas l'interdiction de consommer la viande à sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, étant donné que tous les jours de fête sont considérés comme un seul jour? Vechitema hachanami, si tu veux me répondre, effectivement c'est ainsi. Selon Rabbi Tarfon, tous les jours de fête sont considérés comme un seul jour. Concernant la limite fixée par la Torah pour la consommation des sacrifices, d'Atania, pourtant il est enseigné dans une braïta, Rabbi Nathan Omer, lo amar Rabbi Tarfon elazubilvad. Rabbi Tarfon n'a dit cela qu'on peut attendre la fin de la fête que concernant cela. Donc, le fait de laver et frotter les ustensiles qui ont servi à la cuisson de la viande de sacrifice, et non pas pour les autres lois, donc le temps pour la consommation des sacrifices. Et là, plutôt la Gemara dit, ce n'est pas cela la raison de Rabbi Tarfon, mais plutôt que de Rabbi Nachman Amar Rabba Baravua. D'Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Kol Yom Vayom Naase Giul Lechavero. Chaque jour, lorsque cette personne cuit la viande de sacrifice dans cette casserole, en fait, nous considérons qu'il a ébouillanté, donc il a fait sortir ce que l'ustensile a absorbé la veille. Donc en fait, ce que Rabbi Tarfon veut dire, c'est que puisque pendant les fêtes, il y a beaucoup de sacrifices, surtout beaucoup de korban shlamim qui peuvent être consommés pendant 2 jours et une nuit, donc, par conséquent, lorsqu'il cuit la viande d'un korban shlamim le premier jour de fête, cette casserole peut servir le jour suivant, et le jour suivant, lorsqu'il aura fait cuire un korban shlamim, nous considérons que ce qu'il a absorbé la veille est sorti. Il n'est donc pas nécessaire de frotter et de laver l'ustensile pour ce qu'il a absorbé la veille, et il faudra attendre que se termine le moment de la consommation du deuxième sacrifice pour devoir le frotter et le laver, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la fête. Et s'il fait cuire un sacrifice qui ne peut être consommé que pendant un jour, par exemple un korban khatat ou un korban toda, il fera attention de faire cuire la même journée un korban shlamim. Ainsi, nous considérons que ce que cette casserole a absorbé du sacrifice précédent est sorti, et il ne reste dedans que ce qu'il a absorbé de ce sacrifice, donc le korban shlamim, et il pourrait être encore utilisé le lendemain. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Vachachamim omrim adzman achila » jusqu'au moment où il peut consommer le sacrifice. Alors la Gemara demande « Maïka Amar » qu'est-ce que les Chachamim veulent dire ? La Gemara répond « Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua mamtin la adzman achila » il attend pour frotter laver l'ustensile jusqu'à ce que s'écoule le moment prévu pour la consommation du premier sacrifice qu'il a cuit dedans « Vehadar avid la merika ushtifa » et ensuite il le frotte, il le lave comme il se doit. Et il pourra ensuite l'utiliser pour un autre sacrifice. Alors la Gemara demande, « Menan emile, d'où sait-on ces choses-ci que le fait de frotter et de laver l'ustensile doit être effectué après que s'est écoulé le moment prévu pour la consommation du sacrifice dont la viande a été cuite dans cet ustensile ?» La Gemara répond, « Amar Rabbi Yochanan Mishum Abba Yossi Ben Abba, Ktiv, le pasuk dit d'une part dans Vaikravav, ou Morak Veshutaf, et il sera frotté et il sera lavé. » Le pasuk parle de l'ustensile qui a servi à cuire la viande d'un sacrifice, Urtiv, et le pasouk dit par la suite, toujours dans le même chapitre, Kol zachar ba kohanim yochal, tout mâle des kohanim mangera ce korban khatat. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que ces deux psukim ont été juxtaposés? Alors la Braïta demande, Haketzad, comment accomplit-on ces deux psukim, c'est-à-dire, comment interpréter cette juxtaposition de ces deux psukim? Forcément, le rapport entre la consommation du sacrifice et le fait qu'il faut frotter et laver l'ustensile dans lequel on a cuit la viande du sacrifice, mamtin la adzman achila, il attend jusqu'à ce que s'écoule le moment prévu pour la consommation du sacrifice, behadar avid la merika ushtifa, et ensuite il effectue ce frottement et ce lavage de l'ustensile. Donc de là nous apprenons que le fait de frotter et de laver l'ustensile qui a servi à la cuisson d'un sacrifice doit s'effectuer après que s'est écoulé le moment prévu pour la consommation de ce sacrifice. Selon les Chachamim, donc, on ne peut pas sauter ce moment, même pendant les jours de fête, même si on considère que ce qui a été absorbé dans cet ustensile est sorti parce qu'on a cuit un autre sacrifice dans la même casserole. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Merika kimrika takos ». Le terme de « merika » veut dire « comme on frotte un verre ». Donc, de l'intérieur, « shtifa ke shtifa takos ». Le terme de « shtifa » veut dire « comme on rince un verre », donc de l'extérieur. Alors, la Gemara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Merika ou Shtifa Betsonen. Le terme de Merika et Shtifa, donc le frottement et le lavage, s'effectue avec l'eau froide. Divrei Rebi, ce sont les paroles de Rebi, Bachachamim Mourim, Merika Bechamin. Le frottement s'effectue avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Donc, selon les Chachamim, tout d'abord, on ébouillante l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande d'un sacrifice, ou Shtifa Betsonen, et le rinçage s'effectue avec de l'eau froide. Donc après avoir été bouillanté. La Gemara demande, Maïtama de Rabbanan, quelle est la raison de Chachamim? Pourquoi disent-ils que l'Amérique s'effectue avec l'eau bouillante? La Gemara répond, Mide de Hava Agioule Ovde Kochavim. C'est comme la loi selon laquelle il faut faire sortir ce qu'ont absorbé les parois des ustensiles utilisés par les Goyim pour pouvoir les utiliser ensuite. En effet, dans Bamidbar Lamed Alef, après la guerre contre le peuple de Midian, la Torah dit que pour pouvoir utiliser les ustensiles utilisés par les goyim à chaud, donc comme les casseroles qu'on utilise sur le feu, il faudra les ébouillanter pour pouvoir les utiliser car ils ont absorbé des aliments interdits. Les Chachamim comprennent que puisque lorsque l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande à sacrifice a absorbé de la viande de celui-ci et après le moment prévu pour la consommation de celui-ci, cet aliment est interdit, donc ce qui est absorbé dans les parois de l'ustensile est interdit à la consommation, il est évident qu'il faudra l'ébouillanter de la même manière qu'on a vu qu'il faut ébouillanter les ustensiles qui ont absorbé des aliments interdits. Donc forcément, le terme de merika veut dire ébouillanter par l'eau chaude. Verebi. Et Rebi qui dit que les termes de merika et shtifa sont tous les deux des lavages à l'eau froide, Amar lecha te répondrait Hag'ala lokamina. Je ne parle pas d'ébouillanter l'ustensile pour faire sortir ce qu'il a absorbé. Il est évident qu'il faudra le faire et ce n'est pas de cela que la Torah parle. Car il est évident que de même qu'il faut ébouillanter un ustensile utilisé par le goy pour pouvoir l'utiliser, car il a absorbé des aliments interdits, il faudra aussi ébouillanter l'ustensile qui a servi à la cuisson de la viande d'un sacrifice, car ce qui est absorbé dans l'ustensile est interdit après le moment prévu pour la consommation de ce sacrifice. Kikamina, cependant, de quoi je parle, les merika ou shtifa, des batar agala, ce que le pasuk veut dire, c'est qu'après avoir ébouillanté l'ustensile, il faudra appliquer la merika et la shtifa, et donc, c'est cela que je dis, que les deux sont à l'eau froide. Le terme de merika veut dire laver à l'intérieur de l'ustensile, et shtifa veut dire le laver à l'extérieur, à l'eau froide. Verabanan, et les rabanan disent là-dessus, imken, si c'est cela que le pasuk veut dire, que tous les deux sont à l'eau froide, l'Irtov cra que le pasuk écrive au morak, morak, qu'il répète donc deux fois le terme de morak pour dire laver à l'eau froide, au shutaf, shutaf, ou bien qu'il soit rincé, donc que le pasuk répète deux fois le terme de shutaf, rincé, et on aurait compris qu'il s'agit tous les deux du même type de rincement à l'eau froide. Mai ou morak ve shutaf, qu'est-ce que le pasuk veut dire lorsqu'il change les termes et dit une fois le terme de mourak et une deuxième fois le terme de shutaf, shmamina? Nous pouvons déduire de là qu'il s'agit de deux types de lavements différents, merika bechamim, donc le terme de merika s'applique avec l'eau chaude, donc ébouillanter l'ustensile à l'eau chaude, ou shtifa betsonen, et le terme de shtifa rincé veut dire le rincer à l'eau froide. Verebi, et Rebi répond là-dessus, irtiv ou morak morak, si le pasuk avait répété deux fois le même terme, donc morak, morak, havamina, j'aurais pensé, trezimne morak, il faut deux fois appliquer la merika, donc il faudra le rincer deux fois à l'intérieur, au trezimne shutaf, ou bien s'il avait dit deux fois le terme de shutaf, on aurait dit qu'il faut le rincer deux fois à l'extérieur. Les karktiv ou morak veshutaf, c'est pourquoi le pasuk dit morak veshutaf, il change les termes, lomar lecha pour te dire merika kemerika takos, donc le terme de merika veut dire le laver comme on lave un ustensile. Donc, de l'intérieur, shtifa que shtifa takos, rincer veut dire comme on rince un verre, c'est aussi à l'extérieur, et les deux, en fait, c'est à l'eau froide, c'est-à-dire il s'agit de deux types de rinçage, un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. C'est pour cela que le pasouk a changé le terme, mais ce n'est pas pour dire qu'il s'agit de deux types de lavage différents, dont un serait à l'eau froide et l'autre à l'eau chaude. Nouvelle Mishnah, Bishel bo kodashim bechulin, s'il a fait cuire dans le même ustensile de la viande sacrée provenant d'un sacrifice et de la nourriture profane, au kodshe kodashim ve kodashim kalim, ou bien s'il a fait cuire dans la même casserole de la viande d'un sacrifice d'une sainteté suprême et de la viande provenant d'un sacrifice d'une sainteté légère, im yesh bahem benoten tam, si dans la nourriture profane ou dans le sacrifice d'une sainteté légère, il y a aussi le goût du sacrifice d'une sainteté suprême, hare hakalim ne chalim kechamurim. Ceux dont les lois sont plus indulgentes devront être consommés comme la viande du sacrifice dont les lois sont plus strictes. Autrement dit, si dans la nourriture profane il y a le goût de la viande d'un sacrifice, il faudra consommer cette nourriture profane de la même manière qu'il est permis de consommer la viande du sacrifice, donc dans les mêmes temps. Selon la Shitam Kubetset, nous sautons le mot suivant. Ve'enan tu'unin merika ushtifa. Cependant, ces ustensiles ne nécessiteront pas un frottement et un lavage. Et cela donc, cette nourriture profane ou ces sacrifices d'une sainteté légère ne transmettront pas l'invalidité s'ils touchent un autre aliment, c'est-à-dire si le sacrifice d'une sainteté suprême était invalidé et il a été cuit en même temps que de la nourriture profane ou que la viande d'un sacrifice d'une sainteté légère, cette invalidité ne se transmet pas à un autre aliment. La Gemara expliquera Rakik Shenaga Berakik, une galette provenant d'une offrande à base de farine qui était invalidée, qui a touché une autre galette provenant d'une offrande à base de farine et qui est valable, et cette dernière a absorbé de l'huile provenant de l'autre galette qui était invalidée, Vechaticha Bechaticha, ou un morceau de viande provenant d'un sacrifice invalidé qui a touché un autre morceau de viande provenant d'un sacrifice valable, Lo kol harekikin ve lo kol achatichot asurim. Ce n'est pas toutes les galettes et ni tous les morceaux de viande qui sont interdits parce qu'on pourrait considérer qu'ils ont absorbé du sacrifice invalidé. Eno asur et la bemakom shebala ne sera interdit que l'endroit qui a absorbé ce qui provient du sacrifice ou de l'offrande invalidée et pas le reste. C'est-à-dire, étant donné que ces morceaux n'ont pas été cuits ensemble, nous ne considérons pas que l'interdiction s'est propagée dans tout l'aliment permis, mais plutôt nous considérons que seul l'endroit qui a touché l'aliment interdit a absorbé. Et ce n'est donc que celui-ci qui est interdit. Nous avons vu au début de la Mishnah deux enseignements contradictoires. En effet, la Mishnah disait que si on a cuit de la viande à sacrifice avec de la nourriture profane dans une même casserole, si dans la nourriture profane il y a le goût de la viande du sacrifice, il faudra consommer cette nourriture profane dans les mêmes conditions qu'on peut consommer la viande du sacrifice, donc dans les mêmes temps. Cependant, la Mishnah semble continuer en disant qu'il ne sera pas nécessaire de frotter et de laver l'ustensile après son utilisation. Et si le sacrifice était invalidé, et donc cette invalidité s'est transmise à l'aliment profane, celui-ci, donc cet aliment profane, ne transmettra pas à nouveau cette invalidité. Et ces deux enseignements sont contradictoires, car si nous considérons que l'aliment profane a le statut de la viande du sacrifice car ils ont été cuits ensemble, et justement parce que cet aliment profane a le goût de la viande du sacrifice, on aurait dû aussi devoir frotter et laver l'ustensile qui a servi à la cuisson de ces aliments, et l'invalidité éventuelle du sacrifice aurait dû être transmise même un troisième aliment. Alors la Gemara demande, Maïka Amar, qu'est-ce que veut dire la Mishnah? La Gemara répond, Imiesh Bahem Benoten Tam, si dans l'aliment profane il y a le goût de la viande du sacrifice, Hare Hakaline Khalin Kechamurim, ceux dont les lois sont plus indulgentes seront consommés comme ceux dont les lois sont plus strictes. Donc, l'aliment profane ou la viande du sacrifice d'une sainteté légère devra être consommée dans les mêmes conditions qu'on peut consommer la viande de l'autre sacrifice, donc dans les mêmes temps. Et dans ce cas où dans l'aliment profane il y a le goût de la viande du sacrifice, il faudra aussi laver et frotter la casserole qui a servi à la cuisson de ces aliments, ou poslin bemaga, et si le sacrifice était invalidé, l'aliment profane ou le sacrifice d'une sainteté légère est invalidé de la même manière, et cette invalidité se transmettra à un troisième aliment s'il le touche. En ba'en benoten tam, mais si dans l'aliment profane ou dans la viande du sacrifice d'une sainteté légère, il n'y a pas le goût de la viande de l'autre sacrifice, en hakalim ne'echalim kechamurim, ceux dont les lois sont plus indulgentes ne devront pas être consommés dans les conditions de consommation des sacrifices dont les lois sont plus strictes. Donc il ne sera pas nécessaire de consommer l'aliment profane dans les temps prévus pour la consommation du sacrifice, et il ne sera pas nécessaire non plus de laver et frotter l'ustensile qui aura servi à leur cuisson, et l'invalidité éventuelle du sacrifice ne se transmet pas par le toucher, c'est-à-dire étant donné que l'aliment profane n'a pas le goût du sacrifice, même si le sacrifice était invalidé, l'aliment profane n'est pas invalidé, donc il n'y a pas d'invalidité qui se transmet à un troisième aliment. Donc en fait, les deux enseignements contradictoires de la Mishnah parlent de deux cas différents. Le début de la Mishnah parle d'un cas où dans l'aliment profane il y a le goût du sacrifice, tandis que la suite de la Mishnah parle dans le cas où l'aliment profane n'a pas le goût du sacrifice. Alors la Gemara demande, Nehi de Koche Kodashim Lobaou, il est vrai que en ce qui concerne les sacrifices de sainteté suprême, il n'est pas nécessaire de laver et de frotter l'ustensile, Kodashim Kalim Nive. Mais en ce qui concerne la viande des sacrifices d'une sainteté légère, il devrait être nécessaire de laver et de frotter l'ustensile. C'est-à-dire dans le deuxième cas de la Mishnah qui parle d'un cas où on a cuit de la viande d'un sacrifice d'une sainteté suprême avec la viande d'un sacrifice d'une sainteté légère. Alors même si le sacrifice d'une sainteté légère n'a pas le goût de l'autre sacrifice, mais pourquoi ne doit-on pas laver et frotter l'ustensile puisque finalement on a cuit dans cette casserole de la viande d'un sacrifice d'une sainteté légère? La Gemara répond à Amar Abaye, Mai en teunim de Kamar, que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit qu'il n'est pas nécessaire de laver et de frotter l'ustensile? Kodshe Kodashim, c'est uniquement ce qui concerne les sacrifices d'une sainteté suprême. Donc, après le moment prévu pour la consommation du sacrifice d'une sainteté suprême, après un jour, Aval, Kodashim Kalim Teunim, mais en ce qui concerne les sacrifices d'une sainteté légère, il sera nécessaire de laver, de frotter l'ustensile, donc après que s'écoule le moment de la consommation de celui-ci, s'il s'agit d'un korban shlamim, au bout de 2 jours et 1 nuit. Rava Amar, Rava dit là-dessus, Hamane Rabbi Shimon, hi. L'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, de Amar, qui dit, Kodashim Kalim En Teunim Merika Ushtifa, que pour la viande d'un sacrifice d'une sainteté légère, il n'est pas nécessaire de laver, de frotter l'ustensile. C'est pour cela que la Mishnah dit que si cette viande d'un sacrifice d'une sainteté légère n'a pas le goût du sacrifice d'une sainteté suprême, il ne sera pas nécessaire de laver, de frotter l'ustensile. Alors la Gemara demande, Bishlama le Rava, on comprend bien la Mishnah selon Rava, Hainu de Katane. C'est pour cela que la Mishnah enseigne un autre cas, au Kodshe Kodashim et Kodashim Kalim, ou bien un sacrifice d'une sainteté suprême qui a été cuit avec un sacrifice d'une sainteté légère. Et cela pour nous enseigner que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Elle allait à Abaye, mais selon l'opinion d'Abaye, Tarte la Mali. Pourquoi a-t-on besoin des deux cas? Puisque finalement, le principe est le même. C'est que si un sacrifice a le goût de l'autre, les lois concernant l'autre sacrifice s'appliquent aussi pour le sacrifice qui est majoritaire dans le mélange. Et sinon, non. L'Agma répond, Tzriche. La Mishnah a eu besoin d'enseigner les deux cas. Deitana Kodashim Bechulim, car si la Mishnah s'était contentée d'enseigner le cas concernant la viande d'un sacrifice qu'on a cuit avec un aliment profane, Hava Amina, on aurait pensé, Chulin Hudemevatle Kodashim, c'est uniquement l'aliment profane qui annule l'aliment sacré lorsqu'il est minoritaire dans le mélange, Delav Minayu, car ce n'est pas la même sorte. Il s'agit donc de deux sortes différentes qui ont été cuites ensemble. Et c'est donc la majorité qui l'emporte. S'il n'y a pas le goût du sacrifice dans l'aliment profane, nous considérons que l'aliment sacré est annulé. Aval kodshe kodashim v'kodashim kalim. Mais si on a cuit un sacrifice d'une sainteté suprême avec un sacrifice d'une sainteté légère, et malo, on aurait dit que non, que puisqu'il s'agit de la même catégorie, c'est-à-dire d'aliment sacré, on aurait dit que même si le sacrifice d'une sainteté légère n'a pas le goût du sacrifice d'une sainteté suprême, le sacrifice d'une sainteté suprême, qui est minoritaire dans ce mélange, ne s'annule pas. C'est pourquoi la Mishnah a eu besoin de préciser que quand même, si le sacrifice d'une sainteté légère n'a pas le goût de l'autre sacrifice, le deuxième sacrifice est annulé. Ve'itana kodshe kodashim ve'kodashim kalim. Et si la Mishnah s'était contentée d'enseigner uniquement le cas du sacrifice d'une sainteté suprême qui a été cuit avec un sacrifice d'une sainteté légère, Avamina, j'aurais pensé, kodashim hudalime levitule kodashim, c'est uniquement des aliments sacrés qui ont la force d'annuler d'autres aliments sacrés. Et donc, s'il n'y a pas le goût d'un des sacrifices dans l'autre, nous considérons que le sacrifice minoritaire est annulé. Aval Khulin, mais en ce qui concerne les aliments profanes, et Malo, on aurait dit que non, qu'ils n'ont pas la force d'annuler les aliments sacrés. Donc, même si on ne reconnaît pas le goût du sacrifice dans l'aliment profane, il ne sera pas annulé. Il devra être consommé donc dans les mêmes conditions qu'on doit consommer le sacrifice. Tzricha, c'est pour cela que la Mishnah a besoin d'enseigner les deux cas. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rakik she naga berakik, si une galette provenant d'une offrande à base de farine qui était invalidée, qui a touché une autre galette provenant d'une offrande à base de farine, ce n'est pas toute la galette qui est interdite car elle a absorbé de la galette invalidée, mais seul l'endroit qui a touché, donc qui a absorbé un peu de la galette invalidée, qui sera aussi invalidée et qui sera donc interdit à la consommation. Alors la Gemara dit là-dessus, Tanu Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné une braïta qui interprète le pasouk dans Vayikra Vav, qui dit que Kol Asher Yiga, tout ce qui touchera la viande du Korban Khatat sera sanctifié, donc qui deviendra sacré comme la viande du Korban Khatat. Alors, la braïta interprète, Kol Asheriga, tout ce qui touche, Yachol Afilu Shelobala, se peut-il que ce qui a touché la viande du Korban Khatat sera sacré comme le Korban Khatat, même s'il n'a pas absorbé un peu du jus du Korban Khatat, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, Bivsara, comme l'explique le Korban Aaron, ce terme de Bivsara dans sa chair est en plus, car en fait, nous parlions précédemment du Korban Khatat, le pasouk aurait pu se contenter de dire tout ce qui touche, on aurait compris qu'il s'agit du Korban Khatat, sera sacré. Donc ce terme de Bivsara nous enseigne.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
nous tournons la page à Daf Tzadezayin Amud Bet, Achivla Bibsara, que ce qui a touché la viande du Korban Khatat ne sera pas sacré jusqu'à ce qu'il absorbe dans lui-même, donc dans sa chair, s'il s'agit de la viande, une partie du Korban Khatat. Donc finalement, le pasouk voudrait dire tout ce qui touche la viande, pour ainsi dire, de l'intérieur, donc qui absorbe un petit peu de cette viande, sera aussi sacré. Comme le Rashi le précise, il ne s'agit pas ici de considérer l'aliment qui a touché la viande du Korban Khatat, donc qui a absorbé un peu de la viande du Korban Khatat, comme étant lui-même la viande du Korban Khatat, donc il soit aussi sacré, parce qu'il a simplement le goût de la viande du Korban Khatat, car ceci, comme l'Agmara le dit dans Psachim Daf Memhe, nous l'apprenons d'ailleurs, mais plutôt il s'agit d'un autre principe, selon lequel lorsqu'une partie d'un aliment permis a absorbé une partie d'un aliment interdit, comme par exemple l'aliment profane qui est absorbé de la viande d'un Korban Khatat, même la partie permise, donc même la partie de l'aliment profane qui n'a pas absorbé de la viande du Korban Khatat, s'associe avec la viande du Korban Khatat pour compléter la quantité requise pour transgresser une interdiction quelconque, comme consommer la viande du Korban Khatat s'il s'agit d'un sacrifice invalidé. Donc ici il s'agirait d'un cas où il aurait fait fondre de la graisse provenant d'un Korban Khatat et a enduit cette graisse sur la viande d'un Korban Shlamim ou de la viande profane pour les griller. Voir le Tarat HaKodesh qui explique longuement pourquoi Rashi a interprété la Gemara de cette manière. Yachol naga bemiktsat chaticha. Serait-il possible que si la viande du Korban Khatat a touché simplement une partie d'un morceau de viande quelconque, yehe kulo pasoul, que toute la viande profane ou autre serait invalidée si le Korban Khatat est invalidé? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit yiga, ce qu'il touche, alors qu'en fait, comme nous l'avons expliqué précédemment, il s'agit de l'aliment qui a absorbé une partie de la viande du Korban Khatat. Alors cette expression yiga, touché, veut nous enseigner hanogea pasoul, seule la partie qui a touché est invalidée, mais le reste sera permis à la consommation. Haketzad, comment cela se présente? Choter et makom shebala, il coupe l'endroit qui a absorbé de la viande du Korban Khatat et le reste sera permis, ou en tout cas ne sera pas considéré comme étant sacré comme le Korban Khatat. Lorsque le pasouk dit bivsara, sa chair, cela veut dire que n'est concerné par cette loi velo begidim, ni les nerfs, velo beatsamot, ni les os, velo bekarnaim, ni les cornes, velo betlafaim, et ni les sabots. Ceux-ci ne sont pas considérés comme étant la viande du Korban Khatat. Donc même s'il touche un aliment et l'aliment en question absorbe un peu du nerf, de l'os, etc. du Korban Khatat, ils ne seront pas sacrés comme le Korban Khatat. Yigdash, lorsque le pasouk dit il sera sacré, cela veut dire liot kamoa, cet aliment en question aura le même statut que le Korban Khatat. Haketzad, comment cela se présente? Impsulahi, si le Korban Khatat est invalidé, tipasel, l'aliment en question sera aussi invalidé. Vim ksherahi, et si le Korban Khatat est valable, permis à la consommation, teachel kechamur sheba, cet aliment en question sera consommé selon les lois les plus strictes parmi les deux. Donc s'il s'agit d'un Korban Shlamim qui aurait touché un Korban Khatat, bien qu'en fait le Korban Shlamim pourrait se consommer pendant deux jours et une nuit, mais étant donné qu'il a absorbé une partie du Korban Khatat, cette partie qui est absorbée ne pourra être consommée que pendant un jour et une nuit comme le Korban Khatat. Nous avons vu donc dans cette braïta que si la viande d'un sacrifice est absorbée un peu de la viande d'un autre sacrifice invalidé, cette partie qui a absorbé est interdite de la même manière que l'autre sacrifice était aussi invalidé. Alors la Gemara demande à Maï, pourquoi pour si peu cette partie du sacrifice qui a absorbé de l'autre sacrifice sera aussi invalidée? Venete assez que vienne le commandement positif de consommer la viande des sacrifices valables, velidre et lota assez, et qu'il repousse ce commandement négatif qui interdit de consommer du sacrifice invalidé. La Gemara répond à Marava, en assez dochet lota assez shebamigdash, un commandement positif ne repousse pas un commandement négatif lorsqu'il s'agit de commandements concernant le sanctuaire. Nous lisons selon la Shetam Koubetset, d'Etania, car il est enseigné dans une braïta qui interprète le pasouk dans Shemot Yudbet concernant l'interdiction de briser les os du Korban Pessah. Alors le pasouk dit dans Shemot Yudbet, Ve'etzem lotish berubo, et dans ce sacrifice, le Korban Pessah, vous ne briserez pas d'os lorsque vous le consommerez. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Echad etzem sheesh bo moach, cette interdiction concerne soit l'os qui contient de la moelle, Ve'echad etzem shen bo moach, soit l'os qui ne contient pas de moelle. Et cela, comme la Gemara l'explique dans Maseret Psachim Daf Pehe, nous l'apprenons du fait que le Pasouk a répété une nouvelle fois concernant le Korban Pessah de rattrapage offert le 14 Iyar, pour ceux qui n'en ont pas offert le 14 Nissan. Donc dans Bamidbar Tet, cette interdiction de briser les os lorsqu'on consomme le Korban Pessah. Alors que la Torah dit clairement justement dans ce chapitre que toutes les lois concernant le Korban Pessah s'appliquent aussi pour le Korban Pessah de rattrapage. Nous apprenons donc que cette interdiction concerne aussi les os à moelle. Alors la Gemara demande à Maï, pourquoi est-il interdit de briser l'os à moelle ? N'était assez que vienne le commandement positif de consommer la viande du Korban Pessah, ce qui inclurait aussi la moelle, velidre et l'ota assez, et qu'il repousse le commandement négatif de briser les os. Et là, forcément donc, en assez doche l'ota assez chez Bamikdash, un commandement positif ne peut pas repousser un commandement négatif lorsqu'il s'agit de commandements de loi qui concernent le sanctuaire ou ce qui y est offert. Rav Ashi Amar, il propose une autre réponse. Yigdash, lorsque le pasouk dit dans Vaikravav que ce qui touche la viande du Korban Khatat sera sacré, de là nous apprenons que ce qui est absorbé du Korban Khatat aura le même statut que lui. Asehu est un commandement positif qui se joint au commandement négatif qui interdit de consommer de la viande d'un sacrifice invalidé. Par conséquent, lorsqu'un morceau de viande d'un sacrifice valable a absorbé un morceau de sacrifice invalidé, il y a concernant ce morceau de viande un commandement positif qui interdit de le consommer parce que le pasouk dit qu'il sera sacré donc comme ce qu'il a absorbé. Et il y a aussi le commandement négatif qui interdit généralement de consommer de la viande d'un sacrifice invalidé. Puisque c'est ainsi, Ve'en ase dochet lot ase ve'ase, un commandement positif n'a pas le pouvoir de repousser un commandement négatif couplé d'un commandement positif. Alors la Gemara demande, Ashkechan Khatat de Mekadesh Bebilua, nous avons trouvé le pasouk qui nous enseigne que le Korban Khatat a le pouvoir de rendre sacré comme lui ce qui est absorbé un peu du Korban Khatat. Shar Kodashim Nalan, d'où sait-on qu'il en est de même pour les autres sacrifices? Donc, que si la viande d'un sacrifice ou même un aliment profane qui aurait absorbé un peu de ce qui provient d'un autre sacrifice aura le même statut que lui. La Gemara répond à Amar Shmuel Mishum Rabbi Lazar. Voici que le pasouk dit dans Vaikra Zayin, Zot HaTorah La Ola Vela Mincha Vela Chatat Vela Hasham Vela Miluim Ul Zevach Hashlamim. Voici la loi qui s'applique pour le Korban Ola, pour l'offrande à base de farine, pour le Korban Chatat, pour le Korban Hasham, pour les sacrifices d'intronisation et pour le Korban Shlamim. Par cette juxtaposition, le Pasouk a comparé tous les sacrifices. Alors il précise, lorsque le Pasouk dit « La Ola » pour le Korban Ola, quelle loi apprend-on du Korban Ola qui s'appliquerait pour les autres sacrifices? Il répond « Ki Ola », tous les sacrifices ressemblent au Korban Ola. Et ce, sur le point suivant, « Ma Ola Tounakli », de même que pour le Korban Ola, il est nécessaire d'avoir un ustensile de service. Afkol, ainsi tous les sacrifices Teunakli nécessitent un ustensile de service. Alors, la Gemara demande Maikli, de quel ustensile de service parle-t-on? Il est ma Mizrak, si le Pasouk parle de l'ustensile qui sert à recueillir le sang du sacrifice pour l'asperger ensuite, Beshalmetzibur Lamiktiv Behu, même en ce qui concerne le Korban Shlamim public, le Pasouk a aussi écrit clairement qu'il faut un ustensile de service pour recueillir son sang. En effet, le pasouk dit dans Shemot Kafdalet, Baikar Moshe Chatzi Adam Bayasem Baaganot. Moshe a pris la moitié du sang des sacrifices dont parle le Passouk et l'a placé, donc l'a recueilli dans des bassines. Il s'agit des sacrifices que les Bnei Israël ont offert à l'occasion de la réception de la Torah. Et comme le Passouk le dit là-bas, ils ont offert des Korbanot Ola et des Korbanot Shlamim. Donc pourquoi apprend-on cela spécialement du Korban Ola, puisqu'on pourrait l'apprendre aussi du Korban Shlamim? Et là, plutôt, la Gemara conclut, des Sakin, il s'agit du couteau, donc qui devra être un ustensile de service pour sacrifier les sacrifices. On ne pourra pas se contenter d'une pierre ou d'un roseau aiguisé pour sacrifier le sacrifice. Alors, la Gemara demande, Ola Gufa Menalan, d'où sait-on que pour le Korban Ola, il faut que le couteau soit un ustensile de service? La Gemara répond, Dirtiv, car le Passouk dit dans Bereshit Kavbet, c'est lorsqu'Avraham Avinu s'apprêtait à sacrifier Yitzhak, le Passouk dit, Vaishlach Avraham et Yado, Vaikach et Amachelet. Et Avraham a envoyé sa main et il a pris le couteau. Vehatam Olahu. Et là-bas il s'agissait de l'offrande d'un korbanola, Dirtiv, car le Passouk dit, toujours dans le même chapitre, Vaïaleu Leola Tachat Beno, et il a offert le bélier en question en tant que korbanola à la place de son fils. Donc nous voyons qu'il faut un couteau pour la sacrification d'un korban ola, et de cette juxtaposition dans le passouk dans Vaïkra Zaïn, nous apprenons qu'il faut un couteau qui soit un ustensile de service pour sacrifier tous les sacrifices. Mincha, lorsque le passouk parle de l'offrande à base de farine, donc quelle loi apprend-on de cette offrande à base de farine qui s'étend à d'autres sacrifices? La Gemara dit, Ma mincha ena nechelet ela lezichre kuna, de même que l'offrande à base de farine n'est consommée que par les kohanim mal, af kol, ainsi tous les autres sacrifices, enan nechalim ela lezichre kuna, ne sont consommés que par les kohanim mal. La Gemara demande, Maihi, de quoi s'agit-il? Quel est le sacrifice au sujet duquel nous apprenons qu'il ne sera consommé que par les kohanim mal? I chatat ve'asham, s'il s'agit du korban chatat et du korban asham, behed yachtiv behu, le pasuk dit clairement, concernant ces sacrifices dans Vaïkra Zaïn, Kol Zachar Bakohanim Yochlenu, tout mal parmi les Kohanim le consommera. Nous sommes Masechet Zvachim Daf Tzadev Zayin Amud Bet, à la fin de la troisième ligne du bas de la page. Nous avons vu précédemment la loi selon laquelle le Korban Khatat transmet son état, quel qu'il soit, à ceux qui en absorbent. Ceci, nous l'avons appris du Passouk dans Vaïkra Vav, qui dit Kol Hanogea Bivsara Higdash. Tout ce qui touche sa chair sera sacré. La Gemara a interprété ce passouk comme voulant dire tout ce qui s'unit avec sa chair sera sacré. Par conséquent, si c'est un sacrifice qui a absorbé un peu de la viande du korban khatat, il sera consommé selon les mêmes lois, c'est-à-dire en un jour et une nuit, même si l'autre sacrifice pouvait être consommé plus longtemps. Si le korban khatat était invalidé, la partie du sacrifice qui en a absorbé sera invalidé de la même manière. Il en sera de même s'il s'agit d'une nourriture profane qui a absorbé un peu du korban khatat. La Gemara s'est posé la question, d'où sait-on que cette loi s'étend à tous les sacrifices et ne s'applique pas seulement pour le korban khatat? La Gemara a répondu en rapportant l'enseignement de Shmuel qui interprète un pasouk dans Vaïkra Zaïn où tous les sacrifices sont juxtaposés. Le pasouk dit, voici la loi pour le korban ola, l'offrande à base de farine, le korban khatat, le korban hacham, les sacrifices d'inauguration et le korban shlamim. Il est évident qu'étant donné que chaque sacrifice a des lois spécifiques, il est impossible de dire que tous les sacrifices ont été comparés pour toutes les lois. Cependant, il y aura au moins une loi qui sera prise de chacun de ces sacrifices et qui sera étendue à tous les autres sacrifices. Alors, la Gemara dit, du korban ola, nous apprenons qu'il est nécessaire d'utiliser un ustensile de service. Il s'agit donc d'un couteau qui ne pourra pas être simplement une pierre aiguisée ou un roseau aiguisé, mais ce devra être un couteau en métal qui sera un ustensile de service et qui sera donc utilisé pour la sacrification des sacrifices. De la mincha, donc de l'offrande à base de farine, nous apprenons que de même que l'offrande à base de farine n'est consommée que par l'éco-animal, ainsi tous les autres sacrifices pour qui cette loi peut s'appliquer ne sera consommé que par des kohanim mâles. Alors la Gemara demande de quel sacrifice s'agit-il? Que doit-on apprendre de cette juxtaposition en ce qui concerne un autre sacrifice? Car si nous voulons apprendre que le korban khatat ou le korban hacham ne sera consommé que par les kohanim mâles, c'est impossible, car pour le Korban Khatat, le Pasouk le dit clairement dans un Pasouk dans Vaikra Vav, et pour le Korban Hasham, le Pasouk le dit clairement dans Vaikra Zayin, Ve'i Shalmei Tzibur, et si tu veux dire qu'il s'agit des Korbanot Shlamim offerts par le public à Shavuot, à l'occasion de l'offrande des deux pains spéciaux, ceci est aussi impossible, car Miribouya Dekraté, nous l'apprenons de l'inclusion du Pasouk dans Bamidbar Yudchet, qui dit concernant la viande des sacrifices, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Aaron HaKohen, « Bekodesh HaKodashim Tochlenu Kol Zachar Yochaloto »« Tu le mangeras dans le Saint des Saints, tout mâle le mangera. » Ce Pasouk est en plus pour nous enseigner que tout sacrifice que le Pasouk nomme sacré sera consommé par les Kohanim mâles dans la cour du sanctuaire. Donc, l'Imed Al-Shalmei Tzibur, ce Pasouk t'enseigne concernant les Korban Shlamim offerts par le public à Shavuot, She'enan Nechalin Ela Lezikhe Keuna, qui ne seront consommés que par les Kohanim mâles, car le Pasouk les nomme sacrés dans Vaikra Kav Gimel. Le Pasouk dit en effet, ils seront sacrés pour Hachem, pour le Kohen. Puisqu'il n'y a pas d'autre sacrifice pour lequel on pourrait appliquer cette restriction qu'il ne serait consommé que par des Kohanim mâles, il n'y a rien à apprendre de la mincha, l'offrande à base de farine. L'Agma répond, Tanaehi, il y a une discussion à ce sujet entre des Tanaïm.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.